Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal Hélène Destombes.
Bonsoir. L'une des principales figures du salafisme en Allemagne a été condamnée ce mercredi à 10 ans et demi de prison. Le prédicateur Abou Allah était accusé de recrutement durant de nombreuses années pour le compte de l'État islamique. Il a été reconnu coupable de soutien et d'appartenance à une organisation terroriste. À Berlin, Delphine Herbollier.
Jusqu'à son arrestation en 2016, l'imam Abou Wala était présenté comme le plus important propagandiste de l'État islamique en Allemagne. Cet Irakien de 37 ans a radicalisé durant des années des jeunes de la région de la Ruhr et de la Basse-Saxe, notamment à travers Internet, où il était très actif, mais où il ne montrait jamais son visage. Abou Wala a aussi aidé à l'envoi des djihadistes dans les régions contrôlées par l'État islamique, en Syrie et en Irak. Figure centrale de la scène islamiste allemande, donc, Abou Wala, de son nom de scène, dirigeait une mosquée dans sa ville d'Hildesheim, un lieu de culte fermé et interdit depuis. Trois autres membres de son réseau ont également été condamnés ce mercredi. L'un d'entre eux aurait logé le terroriste Anis Amri, celui-même qui a tué 12 personnes en décembre 2016 sur un marché de Noël à Berlin. Ce verdict met fin à un procès fleuve. Il aura duré plus de 3 années et compté plus de 120 témoins. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
Autre condamnation en Allemagne, celle d'un ancien membre des services de renseignement syriens. C'est inédit. Iyad Al-Gharib, 44 ans, a été reconnu coupable d'avoir participé à l'arrestation en septembre ou octobre 2011 de quelques 30 manifestants à Douma près de Damas et à leur transfert vers un centre de détention des services de renseignement. Il écope de 4 ans et demi de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. Il s'agit du premier procès au monde lié aux exactions imputées au régime de Bachar al-Assad. Le ministre allemand des Affaires étrangères a salué un verdict historique. L'ambassadrice de l'Union européenne à Caracas sommée de quitter le Venezuela dans les 72 heures. C'est ce qu'a indiqué le ministre vénézuélien des Affaires étrangères. Une annonce sous forme de riposte après de nouvelles sanctions de l'UE à l'encontre du gouvernement de Nicolas Maduro. En Équateur, des émeutes dans 3 prisons qui concentrent 70% de la population carcérale du pays ont fait ces derniers jours 79 morts. Ces mutineries dans le sud et le centre de l'Équateur seraient liées, selon les autorités, à des rivalités entre gangs, notamment de narcotrafiquants, qui se disputent le contrôle des centres de détention. Le président Lénin Moreno a ordonné un strict contrôle des armes, munitions et explosifs dans les périmètres extérieurs aux centres pénitentiaires. En Centrafrique, les forces pro-gouvernementales ont repris aujourd'hui la ville de Bossangoa, fief de l'ancien président François Bozizé. L'annonce a été faite par le gouvernement qui mène une offensive contre des groupes armés rebelles qui, le mois dernier, ont tenté de s'emparer de Bangui, la capitale, après avoir pris le contrôle de plusieurs villes. Les forces pro-gouvernementales mènent depuis près d'un mois une contre-offensive. Le Premier ministre a ainsi annoncé le 17 février dernier la libération totale de Bambari, la 5e ville du pays. Climat fébrile au Niger. L'opposant Mahamane Ousmane rejette le résultat de la présidentielle et revendique avoir remporté le second tour du scrutin dimanche dernier. La Commission électorale nationale indépendante avait annoncé hier la victoire avec près de 56% des voix du dauphin du président sortant, Mahamadou Issoufou. Des manifestations ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes du pays, notamment à Niamey, la capitale, où des affrontements ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Le Ghana est le premier pays au monde à bénéficier gratuitement des vaccins anti-Covid grâce au mécanisme COVAX, cette plateforme mise en place l'an dernier par l'OMS pour fournir les vaccins aux pays les plus pauvres. 600 000 doses de vaccins AstraZeneca sont arrivées à Accra, expédiées par l'UNICEF depuis l'Inde où ils sont fabriqués. Précision de Xavier Sartre.
600 000 doses de vaccins AstraZeneca fabriqués en Inde dans une usine de Bombay ont été débarquées ce matin de bonne heure à l'aéroport d'Accra. Ce sont les premières à être livrées dans le cadre de la campagne anti-Covid orchestrée par COVAX, cet organisme créé par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Alliance du Vaccin et la Coalition pour les Innovations en matière de préparation aux épidémies, la CEPI. COVAX négocie et achète directement auprès des grands laboratoires. Ce système vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants. Mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses. Le Ghana est ainsi le premier à en bénéficier. À terme, ce pays d'Afrique de l'Ouest doit recevoir 2,4 millions de doses. Les personnels de santé seront les premiers à être vaccinés. Acheminés grâce à l'UNICEF, les doses de vaccins seront ensuite administrées aux personnes les plus fragiles. Officiellement, la Covid-19 n'a causé la mort que de 582 personnes au Ghana, mais les chiffres sont sous-évalués. C'est dire si l'arrivée de ces vaccins était attendue.
Xavier Sartre. L'observateur du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, Mgr Jurkovic, a plaidé depuis le siège de l'Organisation mondiale du commerce pour la suppression de certaines restrictions sur la propriété intellectuelle qui entravent l'accès universel aux vaccins contre le coronavirus. Certains pays et entreprises, a-t-il observé, continuent à favoriser les accords bilatéraux faisant monter les prix. Au Bélarus, les grandes manifestations de rue pour contester la réélection d'Alexandre Loukachenko ont cessé. Le régime est parvenu à réprimer ce mouvement né en août au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle. Mais si les Bélarusses ont déserté les rues, cela ne veut pas dire que la contestation s'est éteinte. Elle doit cependant faire face à une sévère répression de la part des autorités. Arrestations de militants, de journalistes, procès d'opposants. Le pouvoir est parvenu à contenir la colère d'une partie de la population désireuse de tourner la page Loukachenko aux commandes du pays depuis 27 ans. Olga Gil-Belova, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et spécialiste des pays post-soviétiques, revient sur la poursuite de la répression et de la contestation.
La répression de ce mouvement n'est pas tout à fait terminée, elle est devenue beaucoup plus discrète. Justement parce que le mouvement se fait moins visible dans l'espace public et aujourd'hui il n'y a plus des grandes manifestations et des grands rassemblements au centre-ville. Il y a encore des manifestations mais dans les quartiers beaucoup plus excentrés et les conditions hivernales et la violence de la répression ont joué un rôle important pour réduire ces manifestations dans l'espace public. Donc cette répression est plus insidieuse, il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont toujours emprisonnées et puis il y a bien entendu des menaces, des sanctions très importantes à l'égard des personnes qui cherchent aujourd'hui à manifester. Mais néanmoins, les raisons ne sont pas disparues, ils n'ont pas, donc bien que le mouvement est étouffé, il reste quand même au fond toujours présent mais sous une forme beaucoup plus latente.
Comment se manifeste cette opposition ?
Vous avez l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays, vous avez un certain nombre de personnes qui étaient forcées de partir, comme par exemple Svetlana Tikhanovskaya, donc la candidate à la dernière élection, qui aujourd'hui est devenue le symbole de ce mouvement d'opposition, qui est reconnue par, en tout cas son rôle dans, en tant que leader d'opposition est reconnu par les gouvernements de plusieurs pays occidentaux, et elle continue toujours à représenter ce mouvement à l'étranger, ainsi que d'autres personnalités de l'opposition. Puis à l'intérieur, un certain nombre de leaders de mouvements qui ont été emprisonnés. Et surtout, il y a un mécontentement général parce qu'aucune solution à la crise n'a été trouvée. Et aujourd'hui, Loukachenko essaie de proposer les modifications de la Constitution, mais tout en gardant le contrôle total.
Le régime de Alexandre Loukachenko tient grâce au soutien de l'appareil d'État. Ce soutien est-il solide ?
Tant que le régime est capable de payer ses fonctionnaires et en premier lieu, bien entendu, tous les représentants des forces de l'ordre sur lesquels ce régime s'appuie, leur soutien sera indéfectible parce qu'effectivement, ils ne souhaitent pas d'endosser le risque de perdre leur emploi.
Loukachenko peut encore compter sur le soutien d'une partie de la population ou bien est-ce que le rejet est unanime ?
Il y a une partie de la population qui considère que la politique de Loukachenko est tout à fait bénéfique pour l'État biélorusse. Il y a toute une partie des retraités, effectivement, il y a une partie des personnes plutôt issues du milieu rural, parce que Loukachenko a mis en place un certain nombre de politiques en faveur justement de l'agriculture, de maintien de ce monde rural. Il continue toujours à payer les retraites et il a même procédé à l'augmentation des retraites et d'une partie des salaires des fonctionnaires. Donc toutes ces mesures permettent de se tenir et puis il y a une partie de l'électorat justement plutôt conservatrice qui considère que les changements peuvent faire être dangereux. Donc il y a effectivement les personnes qui sont encore convaincues que maintien au pouvoir d'exemple Loukachenko est la meilleure chose pour le pays.
Interrogée par Xavier Sartre, Olga Gilbelova était l'invitée de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. Très belle soirée. Au revoir.